Dernier chapitre 25, où j'éprouve une dernière surprise. Edith et moi, nous habitâmes une huitaine la petite mansarde de la rue Girardon. C'était charmant. Edith était gaie comme un oiseau, et moi, je me sentais revivre. Quelquefois, quand venait la nuit, nous nous accoudions sur l'appui de la fenêtre et regardions Paris, qui, dans la brume, avec ses lumières, ressemblait à un lac immense dans lequel se reflèteraient les étoiles. Autrefois, il nous avait fait horreur, ce grand et beau Paris. Mais à présent, nous l'aimions, car c'était là qu'avait enfin commencé notre bonheur. Un soir, que nous venions d'ébaucher des projets d'avenir, comme Edith s'étonnait que je fusse devenu riche tout d'un coup, je lui dis, en lui prenant les mains, « La malchance finit toujours par abandonner sa proie, Edith, et l'homme qui a beaucoup souffert trouve ici-bas sa récompense. Je ne sais si dans l'autre monde on nous demandera compte de nos actes, mais ce qu'il y a de certain, c'est que sur cette terre, il y a déjà une justice. « Edgar, me dit ma maîtresse, vous vous exprimez en ce moment comme un pasteur, et j'aime à vous entendre parler ainsi. » Plutôt ciel que j'eusse été un pasteur, au lieu d'être ce que j'ai été, un cambrioleur. Mais en ce cas, Edgar, vous ne m'auriez pas connu. Qui sait? Il y a des êtres qui sont nés pour se rencontrer. Je vous disais donc qu'il arrive toujours un moment où nos maux doivent prendre fin. Et ce moment est arrivé. Après l'affreux malheur qui m'a frappé si cruellement, et m'a pendant de longs mois retranché du nombre des vivants. Quand je vous ai retrouvé à Londres, dans ce music hall de Pennington, j'avais décidé de m'embarquer pour l'Amérique du Sud. Mais le hasard, qui est notre grand maître, appelons-le la Providence, si vous préférez, n'a point permis que je quittasse l'Europe. Le bateau qui devait m'emmener en Amérique a eu subitement une avarie, et comme je voulais fuir Londres le plus vite possible, je me suis fait engager sur le premier bâtiment venu. Et savez-vous où il allait, ce bâtiment? Ah, vous ne devineriez jamais, Edith. Il allait en Hollande. Peut-être comprenez-vous déjà. Oui, oui, s'écria ma maîtresse. Je comprends, Hollande. Vous avez retrouvé votre oncle et... Non, non, je ne l'ai pas retrouvé. Le pauvre homme était mort quand je suis arrivé. Mais il avait laissé un testament en bonne et due forme. Et vous avez hérité de toute sa fortune, Edith, oui. Alors vous avez pu prouver que vous étiez réellement Edgar Pipe. Oui, j'ai pu le prouver. La vieille gouvernante de mon cher oncle, que j'ai d'ailleurs récompensé largement, a témoigné en ma faveur devant les officiers ministériels et les banquiers sur lesquels fortune du décuju s'était déposée. Du décuju, dites-vous, je croyais que votre oncle s'appelait Schaff. Oui, dit-il, s'appelait Schaff. Décuju est un terme de droit qui sert à désigner le défunt dont on hérite. Bref, j'ai hérité. J'ai aujourd'hui une fortune qui nous permettra de mener la grande vie. « C'est bien vrai, tout ce que vous me racontez là. Oh, vous pouvez tout m'avouer, Edgar, vous savez bien que je ne vous trahirai pas. Vous avez vendu votre diamant, n'est-ce pas ?» Pour toute réponse, je tirai le régent de ma poche et le montrai à ma maîtresse en disant « Vous faut-il une preuve ?» Edith, toute confuse, se jeta dans mes bras. « Oh, pardonnez-moi, Edgar. » J'aurais pas dû vous parler ainsi. Je suis folle, mais voulez-vous me permettre de vous poser encore une question? Parlez. Ce diamant, comment est-il tombé entre vos mains? Je l'ai volé, Edith. Oh! Et vous êtes sûr qu'il est vrai? Regardez-le plutôt. Et m'approchant de la petite lampe qui brûlait au fond de la pièce, je fis miroiter le régent aux yeux de ma maîtresse. Oh, la pauvre Alouette était éblouie, fascinée. « Qu'il est joli ! S'écria-t-elle en se rapprochant doucement de moi. Je vous crois, Edith, ce diamant est unique au monde. Songez donc qu'il a appartenu à la couronne de France, avec le Kohinoor que les Anglais ont trouvé jadis, en pillant les trésors des Rajas de Lahore, c'est un des plus beaux que l'on connaisse. Et vous allez le vendre? Y songez-vous, Edith, vous oubliez que je suis maintenant un honnête homme. C'est vrai, oui, alors vous allez le rendre? Oui. C'est dommage. Vous pourriez le faire scier, c'est facile, je crois, et vous obtiendriez ainsi 4 ou 5 éclats que l'on pourrait monter en boucle d'oreille, en bague et en pendentif. Et qui porterait ces boucles d'oreille, ces bagues et ces pendentifs? Mais moi, Edgar, vous savez bien que j'ai toujours aimé les diamants. Je regardais ma maîtresse avec sévérité, puis laissait d'un ton grave tomber ces mots. « C'est vous, Edith, qui osez me dire une chose pareille ?» Il y eut un silence. Je jouais merveilleusement mon rôle d'honnête homme outragé. Edith baissait la tête. Je voyais sa poitrine se soulever à un petit coup saccadé. Elle pleurait. « Allons, lui dis-je en l'embrassant, oublions tout cela. » Vous en aurez des bijoux, mais je ne les aurais pas volés. Il y a des diamants qui portent malheur et le régent est ceux-là. Je ne serai vraiment tranquille que lorsque je l'aurai reporté au Louvre. Et si l'on vous arrêtait, dit Edith, en me regardant de ses grands yeux humides. Non, 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 je n'ai rien à craindre, j'ai tout prévu. J'avais tout prévu, en effet, mais l'objection d'Edith venait cependant de me troubler. Toute la nuit, je réfléchis et pesais, comme on dit, le pour et le contre. M'arrêter, le pouvait-on? Je ne serais pas assez stupide pour avouer que j'étais le voleur du régent, et que n'ayant pu le vendre, je venais le restituer à son propriétaire, c'est-à-dire à l'État. J'inventerais une histoire quelconque. Oh, je ne suis jamais en peine pour inventer, et ma démarche me vaudrait certainement les félicitations de l'administration du musée. Qui sait même si l'on ne m'offrirait pas une récompense, que je refuserais bien entendu, car lorsqu'on se met à devenir honnête, il faut le demeurer jusqu'au bout. Le matin, quand je me levais, j'avais préparé le petit discours que je tiendrais aux hauts fonctionnaires qui voudraient bien me recevoir. J'avais prévu toutes les questions que l'on pourrait me poser, et j'étais sûr d'y répondre sans embarras. J'embrassai tendrement Edith en lui donnant rendez-vous pour 12h30 à la station des omnibus du pont des Saints-Pères, et j'allai chez moi faire toilette. Je revêtis mon plus beau complet, me pomponnai, me bichonnai, puis après m'être longuement regardé dans la glace, je pris mon chapeau et mes gants et je descendis. Une fois dans la rue, je hailai un taxi. « Au musée du Louvre, » dis-je au chauffeur. « De quel côté ?» demanda l'homme. « Côté du quai. »« Bon. » Durant tout le trajet, je repassais dans ma tête le petit speech que j'allais débiter, mais au fur et à mesure que j'approchais du but, je me sentais de plus en plus inquiet. Si tout de même... Non, mais non, je me forgeais des idées stupides. Depuis quand arrête-t-on un homme qui vient restituer un objet volé? Et puis, oh, décidément, je venais bien timoré depuis que j'étais entré dans la peau d'un honnête homme. Je perdais tous mes moyens, je ne me reconnaissais plus. Quand je descendis de taxi devant le Louvre, j'avais retrouvé tout mon aplomb. Je réglais le chauffeur et m'engageais dans la cour du carrousel. L'idée m'était venue tout d'abord de me rendre directement au cabinet du conservateur, mais il n'était que 10h30, et je savais qu'à Paris, comme à Londres, Les fonctionnaires de l'État viennent très tard à leur bureau quand ils y viennent. Je résolus donc d'entrer au musée en attendant 11 heures. J'éprouvais, je vous l'avoue, une petite émotion en pénétrant dans ces salles que j'avais parcourues 3 ans et demi auparavant, la veille de Noël, avec dans ma poche un diamant qui ne ressemblait en rien à celui dont j'allais m'emparer. Je montais au premier étage, longeais la galerie française du XVIIIe siècle, la salle des primitifs, et arrivais au salon carré. Mon émoi grandissait. Je m'arrêtai un instant devant le repas chez Simon le pharisien par Paul Véronèse, puis allai me planter devant le Mona Lisa de Léonard de Vinci. Les visiteurs étaient assez rares, car depuis qu'il faut payer pour entrer dans les musées, nombre de gens s'abstiennent d'y venir. Il y avait là quelques Anglais en complet gris ou beige, et une dizaine d'Anglaises avec des chapeaux ridicules. De temps à autre, on voyait des hommes, jeunes pour la plupart, coiffés de grands feutres mous, qui traversaient la salle en habitués de la maison, et se répandaient dans la grande galerie des écoles étrangères. Des femmes d'âge mûr, le nez chevauché de lunettes, arrivèrent bientôt, munies comme les hommes de boîtes de couleurs. Tous ces gens s'installaient le long de la grande galerie et dressaient leurs chevalets. Les gardiens, empressés, sortaient des placards ménagés dans les plaines d'étoiles où s'étalaient des ébauches plus ou moins avancées, les unes fort réussies, les autres hideuses ou ridicules. Soudain, une bande d'étrangers, conduite par un interprète d'agence, fit irruption dans le salon carré. Les tableaux ne semblaient guère les intéresser, sauf les noces de Cana, qui, par leur dimension, étonnent toujours les profanes. Songez donc, une toile de 6,66 m de haut sur 9,90 m de large. Je me mêlai au groupe qui bientôt arrivait dans la salle où sont exposés les diamants de la couronne. Au centre de la galerie, la vitrine que je connaissais bien, hélas, ne manqua pas d'attirer leur attention. Mes touristes s'arrêtaient devant ces merveilles et les contemplaient avec des yeux de convoitise. Les femmes, surtout, étaient éblouies, et les cris d'admiration se croisaient à la vue des solitaires reposant sur leurs écrins de peluche blanche, tandis que l'interprète psalmodiait d'une voix de pasteur « Voici les diamants de la couronne. Le régent, le plus beau diamant connu, il pèse 136 carats, c'est-à-dire environ 28 grammes, et est estimé de 12 à 15 millions. » Je ne pus m'empêcher de sourire en voyant tous ces badauds s'extasier devant une pierre fausse, car l'administration du Louvre avait, comme je m'en doutais, remplacé par un fac-similé le diamant que j'avais dans ma poche. Je dus reconnaître cependant que l'imitation était parfaite et faisait le plus grand honneur au talent de l'artiste qui avait taillé ce strass. « Cette épée est celle de Charles X, » continuait l'interprète. « La garde et la poignée sont en or ciselé. Remarquez, messieurs et dames, que tous les dessins que vous voyez sur la galarde et la coquille sont faits de pierres enchâssées. » Des murmures approbateurs soulignaient la diction du guide et couvraient par instants sa voix. J'éprouvais une joie secrète à suivre cette foule de curieux qui bâillait d'admiration en contemplant un diamant faux. Mais il n'y avait donc pas un connaisseur parmi tous ces gens-là. 11 heures sonnèrent à l'église Saint-Germain, l'Auxerrois, et le timbre vibrant de cette cloche, qui me rappelait ma triste nuit de Noël, me rappela aussi que j'avais une démarche à accomplir. Je m'approchai d'un gardien et lui demandai où se trouvait le cabinet du directeur. Oh, monsieur, répondit l'homme, le directeur vient bien rarement, mais si vous voulez voir le conservateur de service, il est peut-être là. Est-ce pour une affaire personnelle? Oui. Veuillez me suivre, je vais vous conduire. Tout en emboîtant le pas au gardien, je pensais à part moi. C'était peut-être celui-là qui était de garde dans la salle des antiquités égyptiennes, la nuit où j'ai volé le régent. Nous suivîmes une galerie, puis une autre, et arrivâmes enfin dans un couloir où s'ouvraient plusieurs portes capitonnées. Un gardien en manche de chemise était en train de brosser sa redingote devant une fenêtre. Heurtebise, dit mon guide, voici un monsieur qui voudrait parler au conservateur pour une affaire personnelle. Le nommé Heurtebise endossa vivement sa redingote et, s'avançant vers moi, si monsieur veut bien me donner sa carte. Je fouillais dans mon portefeuille, mais je n'y trouvais point de carte, bien entendu, car j'avais oublié, on ne pense pas à tout, de faire graver une centaine de Bristol au nom de James Bruce. Le brave fonctionnaire, voyant mon embarras, me conduisit vers une petite table sur laquelle je trouvais des formules imprimées. J'inscrivis mon nom sur une de ces feuilles. Veuillez attendre, monsieur, dit le jeune gardien. 10 minutes après, j'étais devant monsieur le conservateur, un petit vieillard très affable qui était assis devant un grand bureau de chêne encombré de revues et de journaux. Il se souleva à demi sur son fauteuil et m'invita à m'asseoir. Monsieur, lui dis-je, je viens ici accomplir un devoir. Il me regarda d'un air étonné. Oui, repris-je, un devoir. Il y a 3 ans et demi, un misérable s'est rendu coupable d'un vol. À son lit de mort, il a tout avoué et m'a prié de rapporter au musée du Louvre l'objet qu'il avait dérobé. Et quel est cet objet? Demanda le conservateur dont les yeux s'étaient allumés. Voici, dis-je, en présentant le régent à mon interlocuteur. Celui-ci le prit, le posa sur sa table sans même l'examiner, puis me dit en souriant: Je vous remercie, monsieur, la démarche que vous venez de faire auprès de moi vous honore. Mais permettez-moi de vous dire que ce diamant n'est pas le régent. Pourtant, monsieur, non, 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 ce n'est pas le régent. Le régent n'est jamais sorti du Louvre. Mais cependant, ce diamant est faux, monsieur. C'est un vulgaire strass, merveilleusement travaillé, il faut le reconnaître, mais qui ne vaut pas plus de 500 à 600 francs. Oh, je le connais bien. Car c'est moi-même qui l'ai commandé à un tailleur de pierre fine de Paris. Oh, il y a 3 ans, ou plutôt non, 3 ans et demi. La châsse dans laquelle sont enfermés les diamants de la couronne, et qui, comme vous le savez peut-être, descend chaque soir dans les sous-sols, cette châsse ne fonctionnait plus. Et comme la réparation pouvait durer plusieurs semaines, l'administration du Louvre, par prudence, a cru devoir en secret remplacer le régent par un diamant faux. Et elle a sagement agi, vous en conviendrez, puisque sans cette précaution, le régent eût disparu. Je ne vous en remercie pas moins, monsieur. Votre démarche est celle d'un galant homme. Je ne trouvais rien à dire, tant j'étais stupéfait. Ah, pour une surprise, c'en était une et une belle. Le conservateur continuait. Le voleur qui, à son lit de mort, vous a confié ce faux diamant avait sans doute essayé de le vendre. Ah, peut-être, mais il ne m'en a pas soufflé mot. Il m'a dit simplement qu'il voulait, avant de mourir, libérer sa conscience. Et voilà un volant d'acier qui n'aurait guère apporté à son auteur. Quel était cet homme? Un Anglais du nom de Spring qui était détenu à la prison de Pentonville. Il faut vous dire, monsieur, que je suis inspecteur des prisons et que comme tel, je puis m'entretenir avec les détenus. Maintenant, ce Spring a sans doute été arrêté avant d'avoir pu proposer le diamant à quelques lapidaires. S'il avait su qu'il était faux, il me l'eût certainement avoué. Je ne suppose pas qu'un homme prêt de quitter la vie s'amuse à jouer les Mark Twain. Oh, je ne le suppose pas non plus. Il y eut un silence. Le conservateur reprit. Eh bien, maintenant, nous avons deux faux régents, car j'en avais fait tailler un autre, toujours par précaution. Si vous était agréable, monsieur, de conserver celui que vous venez de me rapporter, je me ferais un plaisir de vous l'offrir. Non, merci, qu'en ferais-je? Oh, je n'insiste pas. L'entrevue prit fin sur ces mots. Je sortis complètement ahuri. Ainsi, ce diamant, qui avait, c'est le cas de le dire, empoisonné ma vie, ce diamant était faux. Oh, si je n'avais pas eu la chance de rencontrer Richard Stone, je serais aujourd'hui plus misérable que devant. Avouez tout de même que l'administration du Louvre est vraiment par trop facétieuse. Elle expose des richesses aux yeux des badauds, excite les convoitises, et qu'offre-t-elle aux audacieux qui risquent le plus hardi des cambriolages? Un diamant faux. Mes compatriotes ont la réputation d'être des humoristes, mais je crois que les Français ne le sont pas moins. Je me suis aperçu aussi qu'il n'était pas très connaisseur, puisque le bijoutier de Rouen, à qui s'était adressé le vieil escroc rencontré dans le train, avait paru s'extasier sur la beauté d'une pierre fausse. Manzana, lui aussi, s'y était laissé prendre. Cette aventure m'a complètement désillusionné. J'en suis arrivé à croire que les diamants en toc font autant d'effet que les vrais. À quoi bon tenir tant à ces maudits cailloux qui font commettre les pires folies? Tout dans la vie n'est qu'illusion, hors l'amour, et les banquenotes, et encore l'amour. Je tiens les banquenotes, et je les tiens bien. Quant à l'amour, ouf, nous verrons. S'il me trahissait un jour, j'aurais encore pour me consoler de jolis petits papiers soyeux, aussi doux à caresser qu'une chevelure de femme. Je sais que certains vont se gausser de moi, mais je ne m'en formalise pas, puisque je suis le premier à rire aujourd'hui de ma déconvenue. Bien que les mémoires, si l'on s'en tient à la formule classique, ne comportent point d'épilogue, je crois cependant devoir ajouter quelques lignes à ce long récit de ma vie. Edgar Pipe n'existe plus. James Bruce non plus. J'ai foi, comme le grand Balzac, en l'influence heureuse ou néfaste de certains noms. J'ai donc pris un pseudonyme ronflant, car le millionnaire qui se respecte ne peut afficher un nom vulgaire. Ce nom, vous le connaissez tous, et le voyez souvent dans les chroniques mondaines des journaux, mais je me garderai bien de le dévoiler ici. On comprendra pourquoi. Mon âme a son secret, ma vie a son mystère. Qu'il suffise de savoir que je cherche à racheter par une existence exemplaire les fautes de jadis. Je suis devenu ce qu'on peut vraiment appeler un gentleman, et ma chère Edith est la plus fidèle et la plus adorable des épouses, car nous sommes mariés maintenant. Je vis au milieu du luxe, mais comme je me rappelle mes tristes débuts, je sais être charitable au besoin. Ah, c'est tout de même bon d'être un honnête homme. Il est vrai que c'est si facile d'être honnête quand on est riche. Fin.